On va changer, mais pas totalement de sujet, parce que on va aborder un sujet qui aurait pu faire l'objet d'ailleurs de débats dans la directive droit d'auteur. Qui aurait dû même. Alors, on va pas revenir sur l'historique, notamment l'absence de cette partie-là, mais donc on va parler effectivement d'ARM, qu'on va bientôt définir, et plus généralement en fait du thème du contrôle des usages privés considérés comme légitimes. Hein. Donc vous êtes sans doute encore nombreuses et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre papier. Une fois que vous avez acheté ce livre papier, vous disposez de libertés fondamentales, comme celle de le lire comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. De même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table sur trois personnes, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes. Avec un prix en plus, on ne vous dit pas « vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance, vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre, vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance ». Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté, vous tapoterait l'épaule, là, et vous dirait « Non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. Et puis de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, il faut que tu repasses à la caisse. » Et pareil, là, tu portes des lunettes, eh bien non, tu dois prendre pas tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon, évidemment, c'est un peu Big Brother. Ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable, bien entendu. Ah, sauf qu'il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait, pas pour tout le monde, car certaines personnes, enfin, de très nombreuses personnes et organisations, bah, notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on ne va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc de nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et très généralement, on étant le producteur, l'industrie, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité. On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez de la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM, donc on va redéfinir après, bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé, mais aussi, surtout, par leur protection juridique. Et donc, c'est de cette informatique qu'on appelle déloyale, dont il va être question avec nos invités. Donc, on va commencer par la personne qui est au téléphone pour être sûr qu'elle est bien avec nous. Donc, Marie Duponchel, maître même Marie Duponchel, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, bonjour Fred. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois à l'April, j'ai eu ce plaisir-là de travailler à tes côtés. J'ai également travaillé aussi dans d'autres associations du logiciel libre, en particulier sur le domaine de la protection via les DRM à l'époque, donc en 2010, 2011, 2012, où c'était un vrai enjeu et une vraie problématique. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis avocat et j'ai édité un livre suite à ma thèse sur le droit à l'interopérabilité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi et sur ce problème du régime juridique des DRM.
Alors exactement, nous en reparlerons. Donc ta thèse est intitulée « Le droit à l'interopérabilité,
ouais,
étude de droit de la consommation ». Alors effectivement, c'est l'un des mots sans doute les plus compliqués, c'est un bon exercice de diction. On essaiera d'expliciter ces termes qui sont que tout le monde ne comprend pas forcément, même parmi ceux qui pensent le comprendre comme certains experts juridiques, mais c'est effectivement un mot important. Et quand tu disais que tu avais participé, outre l'April, à d'autres associations du Libre, il y avait évidemment l'association Vidéolan. Donc nous avons l'énorme plaisir aussi d'avoir Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Baptiste?
Ouais, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Kempf, je suis un Parisien depuis très longtemps et je suis un geek et je bosse sur VLC depuis 2004-2005, depuis longtemps. Et j'ai commencé à travailler sur le projet VLC et Vidéolan avant que ce soit une association et j'ai créé l'association en 2008 et depuis je gère le projet. Et maintenant, j'ai créé une entreprise pour justement pérenniser des solutions open source autour du multimédia, autour de VLC.
Alors, la société s'appelle Video Labs et c'est pour promouvoir des solutions même libres, hein, parce que après tout, on est en France, on peut employer le terme logiciel libre. Je sais bien que tu préfères le terme open source.
Alors, je préfère pas, j'ai juste cette très mauvaise habitude parce que je parle jamais en français. Donc, moi, je dis ça de façon interchangeable parce qu'en anglais, c'est vrai, c'est un terme qui n'est pas très bon parce que l'anglais est limité là-dessus. Mais non, nous, dans l'association et dans l'entreprise, on fait que du logiciel libre et que du code PILEF.
Et quand tu parlais de... Alors, Copyleft, c'est une des licences, effectivement, du logiciel libre. On ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Ça sera l'occasion d'une émission un jour. J'ai oublié ma question. Ah non, quand tu me disais que tu étais un geek, en fait, dans le sens, là, développeur vraiment de logiciel libre, informaticien...
Moi, je suis tombé dedans, en fait, assez tôt. Et j'ai toujours voulu être développeur. Je me retrouve un peu président de l'association et j'ai créé la boîte peut-être parce que j'étais le moins bon des développeurs et donc il fallait bien quelqu'un qui fasse les tâches administratives. C'est vrai que moi, c'est ça qui m'amuse et surtout, je travaille sur des projets avec Videolan et VLC qui sont des projets qui sont utilisés par le plus grand nombre. Donc je fais pas... ce qui nous amuse, c'est de travailler pour les utilisateurs et d'avoir des millions d'utilisateurs et pas de faire comme beaucoup aujourd'hui on a dans le libre et l'open source, justement des serveurs, des solutions qui sont au niveau du serveur. Nous, on travaille pour le grand public, on est une association pour le grand public.
Alors d'ailleurs, la deuxième question, ça va être effectivement de présenter un peu plus en détail, rapidement, cependant, à la fois VLC, l'association Videolan, mais je voudrais quand même rappeler que la plupart des gens ignorent que l'outil qu'ils utilisent sur leur ordinateur, qui est représenté par un cône orange et blanc, est déjà un logiciel libre, donc VLC, et que c'est sans doute peut-être le logiciel libre français ou l'un des plus téléchargés au monde. Je ne connais pas les statistiques, mais c'est absolument effarant de voir ce nombre de téléchargements. Enfin, c'est un très, très gros succès.
Il n'y a pas de doute. En fait, c'est non seulement le logiciel libre français le plus utilisé au monde, mais c'est aussi le logiciel français le plus utilisé au monde. On parle de 350 à 500 millions d'utilisateurs. Dans le libre, il n'y a que Firefox au-dessus, hein. Ça, c'est clair. Ou peut-être le noyau Linux, mais en tout cas, en tant qu'utilisation d'application, c'est clairement des logiciels les plus gros. Et c'est intéressant qu'on parle de droits d'auteur et de DRM. Une des raisons, en fait, justement, pourquoi c'est un des logiciels qui a été créé en Europe, c'est justement parce que le droit français et le droit européen est beaucoup plus, ou en tout cas était beaucoup plus cool sur la propriété intellectuelle, notamment au niveau des brevets, que le droit américain ou le droit asiatique.
Alors, est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots ce que fait VLC concrètement ?
Donc VLC, c'est un lecteur multimédia. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins problématique, mais pendant très longtemps, c'était très difficile de lire des fichiers. Il y avait plein de formats. Et pour chacun de ces formats, il fallait installer des codecs, installer plein de...
C'est quoi un codec ?
Un codec, c'est en fait l'algorithme de compression et de décompression. Parce qu'en fait, pour vous donner une idée, si jamais on ne compressait pas en fait, la vidéo, chaque seconde de vidéo en fait, aurait besoin de quasiment un DVD. Donc on pourrait regarder un film, on ne pourrait pas avoir 2000 DVD pour regarder son film. Donc en fait, on compresse, on détruit un peu l'image, et comme votre œil il est pas génial, il y voit que du feu. Ce qui se passe, c'est qu'à l'origine, on avait des petits logiciels qui étaient des lecteurs, et on installait plein de plugins, des codecs, pour lire les vidéos. Et même si la plupart de ces lecteurs étaient libres, en fait, la plupart du travail, il est fait dans ces plugins, et ces plugins, ils sont pas ouverts. Donc VLC, ça a été le premier à justement arriver avec des codecs et à rendre simple. Donc en fait, VLC, l'idée, c'est d'ailleurs la blague aujourd'hui, c'est VLC, ça c'est tout ouvrir, ça pourrait même ouvrir des VHS. C'est pas exactement vrai, mais c'est vrai que VLC, les gens l'utilisent parce que ça marche. Et ça, c'est vraiment un bon point. C'est pas les gens... Donc c'est cool parce que les gens l'utilisent parce que c'est bien et pas parce que c'est libre.
Oui, c'est le premier argument. Je me souviens de ma voisine qui me dit « J'ai un problème avec une vidéo que je n'arrive pas à ouvrir avec mon lecteur sur Windows. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je lui dis « Écoute, installe VLC. » Elle était ravie, effectivement. C'est la preuve par l'exemple que ça marche, effectivement.
Le souci, c'est que en fait, les gens ne savent pas que c'est libre. Donc, temps, ça serait bien qu'on essaye. Hein, mais quand on fait des statistiques, c'est moins de 0,01% des gens qui viennent sur notre site qui savent ce que c'est le logiciel libre. Donc ça, c'est vraiment gênant. Mais en tout cas, ça montre que quand on apporte quelque chose qui est bien et qui fonctionne bien, les gens, ils aiment.
Alors, là, il y a beaucoup plus de monde qui vont savoir que c'est un logiciel libre. En tout cas, toutes les personnes qui écoutent l'émission le sauront. Et effectivement, c'est une grosse ignorance du côté libre, effectivement, de VLC. Alors, après cette petite présentation, donc, on va demander à Marie de nous faire... Alors, c'est un peu le point difficile, hein, mais après tout, tu es spécialiste du sujet, de nous faire une définition ou présentation succincte de la notion de DRM. Qu'est-ce qu'un DRM, Marie ?
Alors, pour l'instant, on va rester très simple sur la définition, parce que c'est vraiment ça fait partie des problèmes, hein, le problème de la définition des DRM. Moi, je le définirais en fait tout simplement comme un système technique en fait qui permet à un détenteur de droit, on va parler là, je vais peut-être dire un gros mot, mais droit de propriété intellectuelle, de spécifier en fait ce que vous pouvez faire avec le contenu objet du droit de propriété intellectuelle. Est-ce que je peux copier ma vidéo ? Est-ce que je peux la transmettre ? Est-ce que je peux la sauvegarder ? Est-ce que je peux l'ouvrir sur mon ordinateur, sur mon smartphone, sur ma tablette ? Voilà, c'est donc un petit logiciel qui vous dit concrètement ce que vous pouvez en faire.
Alors, tout à fait, c'est une présentation tout à fait claire. DRM, donc ça vient de l'anglais, donc Digital Right Management. Alors, je n'ai pas du tout l'accent de Jean-Baptiste.
Donc, c'est pour ça que je lui laisse.
Moi aussi, mais bon, finalement, je l'ai fait. Donc, dans cette notion, il y a de gestion des droits, il y a deux choses. Il y a l'information sur les droits et puis la gestion des droits. Effectivement, et donc là, effectivement, ce que tu expliques, c'est que les DRM aujourd'hui sont avant tout des outils de gestion des droits. Par effectivement voilà. Les titulaires de droit qui mettent en place effectivement via cet outil technique un contrôle des usages vu qu'ils décident eux-mêmes de, en fait, des droits qu'ils accordent au public. Est-ce qu'on... Voilà. Vas-y.
Et en anglais, en fait, on utilise effectivement la notion de DRM, c'est-à-dire Digital Rights Management, c'est-à-dire la gestion des droits numériques. Et en France, on a une définition qui est un tout petit peu différente et qui diffère un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'on a des grosses discussions à ce sujet-là, puisque moi, j'utilise souvent le mot MTP, c'est-à-dire mesure technique de protection, ce qui ne peut pas forcément signifier la même chose que gestion des droits numériques.
Alors, tu
utilises... parles là de protection des droits d'auteur, véritablement, avec ces systèmes techniques.
Alors notamment, tu utilises ce terme parce qu'effectivement, depuis la loi droit d'auteur en France en 2006, qui découle directement, avec quelques trucs en plus, de la directive européenne sur le droit d'auteur de 2001, donc celle-là qui est en cours de révision, effectivement, le terme consacré, c'est mesures techniques de protection. Mais ce qui montre plus déjà la volonté réelle, mais en fait, le vrai terme qui devrait être utilisé, que nous on utilise évidemment, qu'on préfère utiliser, c'est les dispositifs de contrôle d'usage, ou menottes numériques, voire verrous numériques. Alors, une fois donc là, on a calé un petit peu une première définition des DRM, sans revenir sur tout l'historique, parce qu'il faut quand même savoir que ça descend tout ça de 1996, de traité à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, donc l'OMPI. Donc imaginez le monde d'Internet du numérique en 96, et aujourd'hui ça a beaucoup changé. En fait, la loi sur les DRM, et donc les mesures techniques, les dispositifs de contrôle d'usage, auraient dû aussi évoluer. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples, parce qu'évidemment aujourd'hui on va cibler beaucoup la vidéo avec Jean-Baptiste et Marie, mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de DRM dans la vie quotidienne qui permettent de comprendre aux gens que finalement on vit une vraie overdose de DRM ? Jean-Baptiste, Marie ?
Les capsules Nespresso, où ils ont essayé d'empêcher d'avoir des capsules compatibles. Aujourd'hui, faut pas acheter Nespresso pour d'autres raisons, notamment écologiques, mais c'était vachement pratique, ça c'est vrai, et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher Monoprix et tout ça, de faire des capsules beaucoup moins chères. Et ça, c'était juste pour des raisons d'incompatibilité et d'attaque juridique. C'est pas exactement des DRM, mais c'est exactement la même idée. Vous n'avez pas le droit de mettre le café que vous voulez, vous mettez le café que je vous vends et dont j'ai fait l'approvisionnement et dans lequel j'ai mes marges, etc.
Marie, vas-y.
On avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps en fait des petits systèmes qui vous disaient si vous ne mettez pas la cartouche imprimante de ma marque, votre imprimante ne marchera plus. C'est des exemples concrets, c'est à la limite des mesures techniques de protection, mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique en fait.
Étienne, tu as un exemple ?
Ouais, je pense à un exemple. Moi, je sais que je suis amateur de jeux vidéo. Quand je suis obligé d'être connecté à Internet pour jouer à un jeu qui, pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais pour vérifier que je l'utilise comme contenu ou que je n'ai pas une version qui ne serait pas autorisée, quand je suis obligé de me connecter, je pense que ça relève même de cette même logique.
Et moi, je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin, ça fait rigoler aujourd'hui. Dans 20 ans, c'est carrément possible. Quand on voit l'évolution de la réalité augmentée ou même des Google Glass, Aujourd'hui, c'est ridicule. Franchement, dans 30 ans, c'est pas une blague, quoi. C'est tout à fait possible.
D'avoir l'accès à la pleine expérience. Bah, c'est-à-dire, si vous avez nos lunettes, vous aurez une expérience supplémentaire.
Non, mais ouais. c'est pas déconnant de se dire que dans 15 ans, 20 ans, tout le monde aura des lunettes qui rajouteront des informations, plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas. Ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations. Et donc, c'est pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé. Et donc, à ce moment-là, bah oui, mais non, vous n'avez pas le droit de passer par là, vous n'avez pas le droit. Donc, il y a des possibilités vraiment gênantes. Moi, je n'utilise pas DRM. Moi, je dis...
Tu utilises quoi ?
Je ne parle pas de management à chaque fois. Je ne dis pas gestion, je dis limitation. Parce que c'est ce que je dis aussi en anglais. Je parle de digital right limitations. Et parce qu'en fait, le management, il a l'impression qu'il y a une gestion, comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits. Et ça, c'est très important.
D'ailleurs, quand tu parles de l'acronyme en anglais, une autre utilisation de l'acronyme en anglais, c'est Digital Restriction Management. Donc, c'est dans la même logique de restriction. Marie, tu voulais rajouter un exemple ?
Je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour, mais on a eu des gros exemples. Ils sont en train de revenir dessus, mais dans les livres numériques. Ça a été vraiment un des secteurs où ils ont utilisé à outrance les DRM et ils se sont rendus compte de leur bêtise. Ils sont en train de faire machine arrière complètement, quoi.
Alors, c'est notamment un sujet qu'on abordera dans... Je précise d'ailleurs que c'est une première émission sur les DRM, parce que comme vous allez le comprendre, c'est un large champ. Et nous réaborderons ce dossier-là, notamment sur la partie livre, avec notre libraire préféré, Magali Garnero, qui est à la fois libraire et une activiste du logiciel libre qui connaît bien. Et on parlera aussi des choses vertueuses, comme ceux qui offrent, enfin qui proposent des plateformes, des solutions sans DRM. Mais là, on va plutôt parler de la problématique. Alors, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu techniquement, parce que très récemment, j'étais chez mes beaux-parents, et on a eu une discussion entre DVD, Blu-ray, donc les DVD, machin, et j'ai essayé de leur expliquer la différence, en fait, de type de protection. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors, en essayant d'être le plus simple possible, même si ce n'est pas évident, d'expliquer comment un DRM fonctionne techniquement, en prenant deux exemples, ce que j'appelle, moi, les DRM 1.0, c'est-à-dire le DVD, et les nouveaux DRM, type, par exemple, Blu-ray.
OK. Alors, l'idée du DRM, c'est qu'on vous donne un média numérique, quelle que soit la forme, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du texte. Et en fait, on le chiffre. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme de la crypto de secret. C'est-à-dire qu'on brouille avec une clé. Et seules les personnes qui ont le droit d'ouvrir la clé du coffre vont pouvoir ouvrir le média et être capables de le lire. Donc, c'est comme ça en fait, qu'on fait quand on envoie des emails ou qu'on fait du HTTPS. C'est une utilisation normale. Sauf que là, vous êtes dans le cas où on vous donne un média qui est donc chiffré et on vous donne la clé en même temps, puisqu'il va bien falloir lire sur votre matériel. Et on vous dit, je te donne le média chiffré, je te donne la clé, mais surtout, tu ne regardes pas la clé. Et c'est le problème fondamental des DRM. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez dire, attends, j'ai la clé, j'ai acheté un nouvel ordinateur, je veux lire mon fichier, mon DVD, mon Blu-ray sur mon nouvel ordinateur, j'ai changé de système d'exploitation, que ce soit des systèmes d'exploitation libres ou des systèmes d'exploitation pas libres, mais je veux toujours le lire. Et là, on te dit, mais t'as pas le droit de regarder la clé. Et toi, tu dis, écoute, t'es gentil, j'ai payé mon DVD, je regarde quand même la clé. Et en fait, donc déjà, par conception, en fait, c'est quelque chose qui est complètement cassé et même conceptuellement faux et qui ne peut pas fonctionner. Et donc, la seule façon pour que les gens qui veulent que vous ne regardez pas votre clé arrivent à leur fin, c'est qu'en fait, ils vont mettre des choses dans votre ordinateur que vous ne contrôlez pas. Et donc, en fait, arrive tout ce qu'on appelle l'informatique déloyale, où en fait, il se passe des choses sur votre ordinateur, que ce soit de l'espionnage, tout ce que vous pouvez faire, et c'est une partie de l'ordinateur qui ne répond pas à vous. C'est-à-dire, et c'est maintenant même dans les microprocesseurs, et le but principal de ça, c'est de gérer les problèmes de DRM. Et donc ça, c'est un glissement qui est gravissime, parce que, je vais dire un peu en rigolant, là on parle que de DRM, c'est pas très grave, c'est juste des DVD et des Blu-ray, mais ça veut dire qu'on se met à avoir des parties sur vos ordinateurs que vous ne contrôlez plus. Et là, après, on parle des affaires Snowden, on parle des problématiques de liberté fondamentale et on parle de politique. Et à partir du moment où vous ne contrôlez plus votre ordinateur, alors que vous faites tout sur un ordinateur aujourd'hui, on a un glissement qui est très grave. Et en fait, les industries, parce que c'est bien un problème d'industrie culturelle, entre guillemets culturelle, pousse en fait à avoir de l'informatique que vous ne contrôlez plus et où vous êtes contrôlé par votre machine. Et ça, c'est très grave pour plein d'autres raisons. Alors, pour répondre, en fait, il n'y a pas vraiment... Les deux générations, ce n'est pas vraiment ça. Le DVD, en fait, il y a une clé par disque. Et dès que vous avez la clé, en fait, une clé fondamentale, ça marche pour tout le monde. La partie, ce que j'appelle Blu-ray, c'est la version 1.1, quoi. C'est en fait, la clé, elle dépend du lecteur et du disque et du logiciel qui lit. Mais la version 2 des DRM, c'est pas celle-là. La version 2 des DRM, c'est celle où tout se fait en ligne. C'est-à-dire que dès que vous achetez un film que vous sur Amazon, sur Netflix, etc., en fait, vous ne l'achetez pas, vous le louez. Et tout ce système-là, en fait, n'est fonctionnel qu'au bon vouloir des gens qui et des plateformes.
Alors, effectivement, tu as raison de me corriger sur la numérotation des DRM, mais l'idée que j'en retiens, et ce que j'ai aussi essayé d'expliquer effectivement aux gens avec qui j'en discutais, c'est qu'à l'époque des DVD, techniquement, c'était des DRM qui étaient faciles à comprendre et à contourner, et donc ça n'a pas posé de problème technique, notamment à VLC, pour pouvoir lire des DVD sur des systèmes libres, parce que effectivement, ce n'était pas prévu par ces industries culturelles à la base, mais que plus les DRM s'améliorent, plus ça devient compliqué, même si en fait, techniquement, on le sait, tout ce qu'un être humain est capable de mettre en place va être cassé par un autre être humain, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué.
Ça, c'est clair. On parle le chiffrement au niveau de DVD, c'est une blague. C'est-à-dire que votre téléphone le casse en une seconde. Le chiffrement sur les Blu-ray, on parle du chiffrement de qualité militaire des années 2010, quoi. On parle vraiment de choses très très compliquées, très difficiles à casser. Mais en fait, en fait, il faut bien que les gens comprennent l'important des DRM, c'est pas d'empêcher la copie. Donc, et ça, c'est le gros mensonge que les gens essayent, ne comprennent pas. Et tous les hommes politiques, en fait, ressortent. Ils pensent que c'est du digital right management. C'est vraiment pour contrôler le droit d'auteur. Et en fait, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Si jamais les DRM fonctionnaient, on n'en aurait pas, on n'aurait pas tout disponible, en fait, sur les sites de piratage. Or, la moindre chose qui passe à la télé, dans la... à peu près entre 20 minutes et une demi-heure, c'est sur The Pirate Bay, sur plein d'autres sites. Donc, tous les contenus sont disponibles en fait sur des sites de piratage, et donc c'est bien que leur système de protection n'est pas efficace et fonctionne pas. Et ce qui est marrant, c'est que le terme français, c'est mesure de technique protection, et il y a efficace dans la loi. C'est pas efficace. Oui, mais en fait, leur but, ça n'est pas d'empêcher le piratage. Leur but, c'est de contrôler la chaîne de distribution. Et là, même quand on en parle, la plupart des hommes politiques qui votent ces lois ne comprennent pas ça. Le but, c'est que votre café, vous l'achetiez chez Nespresso, qu'il a acheté chez son grossiste, qu'il a acheté dans toute la chaîne sur laquelle il a récupéré de l'argent à tous les niveaux. Vous voyez bien au cinéma, c'est toujours les mêmes distributeurs, c'est toujours les mêmes, il y a 3 ou 4 majors. Et l'important, c'est que quand vous achetiez votre lecteur de Blu-ray, vous achetiez à Sony, qui a payé sa patente à leur pote de Dolby, qui a payé sa patente à leur pote de Universal. Et le but, c'est d'éviter qu'il y ait d'autres canaux de distribution qu'ils ne contrôlent pas, sur lesquels ils pourraient avoir de la concurrence. Parce que quand on voit qu'on doit acheter ou louer pour 24 heures un film HD à 17€, c'est une blague. Et en fait, il n'y a aucune concurrence parce qu'en fait, ils contrôlent l'ensemble de la chaîne de distribution et ils empêchent qu'il y ait le moindre industrie culturelle qui ne soit pas contrôlée par eux.
Alors, c'est extrêmement clair. Et on a aussi quand même compris effectivement que la technique a ses limites malgré tout. Et donc, en fait, les promoteurs de ces solutions d'informatique déloyales, en fait, outre le fait de pousser les DRM, à un moment, on dit, oui, mais les DRM, il y a des limites, on va donc mettre une protection juridique interdisant le contournement des DRM. Alors là, je fais appel à Maître Duponchel, qui a suivi ce dossier de près. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, justement, sur cette protection juridique, et je mets des guillemets, évidemment, des DRM ?
Alors c'était très intéressant ce que JB a exposé, puisque c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit dans lequel a été mis en place le système des DRM et le système juridique des DRM qui l'entoure. Concrètement, on s'est très vite rendu compte, enfin tu l'as dit Fred, le régime juridique c'est 1996, donc il n'y avait pas l'Internet grand public comme on l'a aujourd'hui. On a un traité international, deux traités internationaux en 1996 au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On a une directive en 2001, la directive EECD, et on a un texte en 2006 qui est la loi d'AFSI, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Concrètement, on s'est très vite rendu compte que, comme dans beaucoup de textes juridiques, la loi est là, mais la performance technique et la performance des geeks est là aussi. Et dès qu'il y a un DRM, eh bien, il y a la technique à côté qui permet de, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, de craquer le système des DRM. Si on n'avait pas mis de protection juridique donc pour empêcher ces actes techniques, les protections par le biais des DRM auraient été totalement inefficaces. C'est vraiment cet enjeu-là, et c'est vraiment ça qui a été mis en avant quand on a commencé à discuter d'une protection juridique du DRM. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'avez pas le droit de toucher au DRM, même si vous savez le faire.
Et quel que soit l'usage finalement, même si c'est un usage légitime.
Alors, c'est là où on a eu, il y a eu des grosses discussions, c'est que on a mis en avant, et ça a été mis en avant dans toutes les discussions, à toutes les différentes phases, 96, 2001 et 2006, c'est vous nous mettez des protections techniques, effectivement, pour empêcher les violations du droit d'auteur et des droits voisins, mais ces protections techniques peuvent empêcher certains droits légitimes pour les particuliers. Je pense, et ça va parler à tout le monde tout de suite, c'est ce qu'on appelle le droit à la copie privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit, quand il a un contenu numérique, il a droit à ce qu'on appelle une copie privée. C'est-à-dire qu'il a le droit de garder pour lui, de faire un usage pour lui et de le transférer sur le support de son choix. Sauf que si vous mettez un obstacle technique comme les DRM, vous ne pouvez pas faire la copie privée, puisque concrètement, il y a un logiciel sur votre film qui vous empêche de faire la copie privée. Et donc certains se sont dit, si on a un obstacle technique, je vais le casser et le problème sera réglé. Voilà, c'est cette problématique-là qu'on a eue et on a décidé d'empêcher le craquage des DRM. Et on est en France, on a des militants du logiciel libre qui sont intervenus. Alors en 2006, moi, j'ai pas eu l'occasion, et en 2001 non plus, de connaître la bataille que vous avez eue sur ce sujet-là, mais je sais que ça a été épique et que c'est des grands souvenirs pour les membres de la communauté du logiciel libre. Mais donc on a eu une forte mobilisation pour qu'on ait une modification des textes, notamment pour favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on doit permettre de partager les contenus et qu'on doit pouvoir permettre différents logiciels d'échanger entre leurs données, les données, quels que soient les obstacles techniques et quels que soient les DRM qui puissent exister. Et là, on a beaucoup de débats, on a beaucoup de discussions sur l'interopérabilité et on a des logiciels comme VLC qui visent précisément à ça. C'est-à-dire, moi, je constate qu'il y a plusieurs formats, je constate qu'il y a des DRM. Moi, j'ai les moyens techniques pour permettre en fait à tout le monde de lire son contenu où il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Je veux donner cette possibilité technique à tout le monde, mais la loi ne me le permet pas. Et aujourd'hui, on a eu une interprétation des textes grâce à l'intervention de l'April, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard sur le Conseil d'État, qui est intervenu en 2008.
Alors, on va y revenir assez rapidement, parce qu'en fait, le temps passe très vite. Donc, effectivement, tu as défini un mot important qui est l'interopérabilité, qui est effectivement fondamentale, et on aura l'occasion d'y revenir. Effectivement, par rapport à ma question tout à l'heure sur les DVD et les Blu-ray, j'avais évidemment en tête aussi la situation juridique en France, donc depuis la loi droit d'auteur de 2006. À l'époque, il y avait une incertitude très importante pour savoir est-ce que VLC avait légalement le droit de contourner donc le DRM des DVD pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, et que effectivement donc l'April a fait un recours au Conseil d'État. La décision du Conseil d'État nous a conforté par rapport à cette procédure, et donc effectivement VLC peut légalement contourner le DRM des DVD car c'est une mesure technique jugée non efficace. Mais aujourd'hui les mesures techniques deviennent efficaces, et je ne sais pas si Jean-Baptiste et Marie, vous voulez peut-être revenir sur l'épisode de Blu-ray et votre saisine de la structure qui est censée réguler en France les mesures techniques, ou simplement expliquer la situation par rapport à l'actualité.
Pour faire simple, en fait, après cette loi, il y a eu une une agence, une haute autorité, comme on sait les faire en France, qui servait à rien, qui s'appelait la RMT.
Alors, autorité de régulation des mesures techniques
de protection, qui servait à rien, qui n'a même pas rempli ses rapports. Quand on appelait, il n'y avait personne. Et en fait, à un moment, ils ont, à un moment de la loi Hadopi, ils ont mergé ça dans Hadopi. Ce qui n'était pas complètement idiot de fusionner ces deux trucs-là. Mais sauf que nous, on avait des questions techniques, c'est-à-dire, eh ben, en fait, comment il faut interpréter la réponse du Conseil d'État qui n'était pas forcément très claire, et comment on faisait. En fait, parce que la partie LC-DVD, c'était en 2001, donc c'était avant DATFI, et là, on était après. En fait, ils n'ont rien compris. Donc, on a passé beaucoup de temps avec Marie. Ils nous ont fait perdre notre temps. Ils ont répondu 40 pages. On n'a rien compris. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas compris la question. On a passé deux fois du temps avec Marie là-bas. Moi, je suis allé là-bas. En fait, ils n'ont absolument rien compris. Donc, c'était un peu une perte de temps, mais c'était pas mal. Ça montrait bien qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'ils faisaient. Et surtout, ça a continué à montrer qu'Adopi, c'était vraiment une catastrophe qui servait juste à utiliser nos pognons.
12 millions d'euros par an, je crois, pour rien, quoi, en fait.
Alors, si un petit peu moins maintenant.
Un petit peu moins.
On n'est peut-être qu'à 9, mais c'est 9 millions dépensés dans le vent.
Et alors, vous, oui. Vas-y, Marie.
Alors, concrètement, en fait, c'est ça. En fait, dans la loi DAFSI, la mobilisation qu'il y avait eu sur la loi DAFSI en 2006 avait permis, en fait, de mettre des petites dispositions, en fait, dans le texte, dans le code de la propriété intellectuelle, qui disait que vous aviez le droit de mettre des mesures techniques de protection, mais que ça ne devait pas porter atteinte à l'interopérabilité, c'est-à-dire que vous ne deviez pas empêcher l'échange. Et tout ça, virgule, parce qu'on met toujours des petites virgules dans les textes, virgule, dans le respect du droit d'auteur. Et face à un texte comme ça, ils avaient créé donc à l'époque la RMT puis la DOPI, une autorité qui était en charge de régler les problèmes. C'est-à-dire que si votre interopérabilité est empêchée par la DRM, on vous met une super autorité qui vous permettra d'échanger, de régler les problèmes entre vous avec les consortiums et tout ça. On interviendra et on vous aidera à régler les problèmes. Et donc c'était la RMT et après ça a été la DOPI. On avait deux possibilités à ce moment-là. C'était tout nouveau, c'était tout beau et c'était tout gentil. C'était à l'image des textes, c'est-à-dire que c'était flou et que ça n'a pas servi à grand-chose. C'est qu'on avait une procédure contentieuse qui était à la disposition et on avait une procédure pour avis. Procédure contentieuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous demandez à quelqu'un l'accès aux informations qui vous permettent de contourner légalement les DRM. Si cette personne ne veut pas vous le donner, vous faites une procédure pour avoir sa condamnation et les informations. Le problème de ce type de procédure, c'est qu'il faut déjà faire une mise en demeure. La majorité des acteurs de ce secteur-là sont aux États-Unis. Autant vous dire qu'une procédure contentieuse en France devant la Hadopi, ils s'en fichent complètement. Et deuxième élément, c'est qu'on peut vous demander de payer en fait, concrètement pour avoir ces informations essentielles. Et donc, on avait saisi pour avis, en leur demandant de nous expliquer comment ils interprétaient, eux, le texte et comment ils pouvaient permettre donc à un logiciel VLC, tout à fait légal, qui fait en fait l'interopérabilité tout à fait légalement, de contourner des DRM alors que ce n'est plus possible puisqu'on ne vous donne pas les informations pour le Blu-ray. Et c'est là où on a eu, Hadopi dans toute sa splendeur qui est intervenue.
Alors, on va faire une petite pause musicale parce que le temps passe. Alors, ne voyez aucun rapport avec ce qu'on vient de dire par rapport au nom de la chanson qui va arriver, du morceau qui va arriver. C'est Sneaky Snitch, donc ce qui veut dire le délateur ou la délatrice sournoise de Kevin MacLeod. Et on se retrouve juste après.
Thank you.
Vous êtes de retour sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site cause-commune.fm partout ailleurs. Nous venons donc d'écouter Sneaky Snitch. Nous étions en train de discuter DRM donc avec mon collègue Étienne Gonu, Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan, VLC et Marie Dupont-Chel, avocate. Jean-Baptiste, tu me disais pendant la pause que tu avais un petit chose à rajouter marrante sur l'interopérabilité ou sur les DRM.
Ouais, en fait, sur l'interopérabilité, c'est assez marrant. C'est qu'en fait, donc vraiment, l'idée de l'interopérabilité, c'est d'être capable de lire sur tous les supports. Et en fait, le logiciel libre, c'est pas mal. C'est que comme le code source, il est libre, il est là, on peut se dire de façon assez probable que VLC, dans 10 ans, il sera toujours là. Il sera peut-être pas aussi utilisé, mais il sera toujours là. Et en fait, on a eu une des sociétés des GAFAM, je ne vais pas donner le nom, parce que, mais ça va vous faire sourire, qui en fait s'est retrouvée avec un DRM d'il y a quelques années. Évidemment, les DRM, tous les ans, ils en font une nouvelle version, ils changent, etc. Et ils ont été un petit peu embêtés parce qu'ils n'étaient plus capables de lire leurs propres fichiers. Et ils nous ont demandé si, par hasard, discrètement, on ne pouvait pas rajouter, en fait, dans VLC et FFmpeg, une façon de déchiffrer les fichiers, c'est-à-dire de casser leurs propres DRM, parce qu'ils avaient plein d'utilisateurs qui leur pourrissaient leur support en disant « ça ne marche pas ». Donc c'est vraiment...
Vous l'avez fait ou pas ?
Je ne répondrai pas à cette question, il faut aller regarder le code de VLC. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, c'est que toute cette partie de DRM ça n'est, et de contre l'interopérabilité, c'est juste pour faire des gains à court terme, pour gagner de l'argent à court terme sur les sorties, la musique et sur les abonnements. Mais en fait, c'est une catastrophe à long terme, à moyen terme, pour la conservation de la culture.
D'ailleurs, tout à l'heure, Marie parlait de la mobilisation en 2006 de la communauté du logiciel libre contre le DRM dans la loi droit d'auteur française. À l'époque, il y a eu aussi des bibliothécaires qui se sont fortement mobilisés pour des questions tout simplement d'archivage. Tu viens de parler des GAFA, mais des ressources numériques qui sont sur DRM et qui, dans 20 ans, ne seront plus disponibles alors que même la ressource sera dans le domaine public, l'archivage est fini. Il y a aussi les représentants d'associations de personnes handicapées qui se sont mobilisés parce que les DRM posent un certain nombre de problèmes très importants. Donc voilà, c'est effectivement pas que le logiciel libre. Et on n'a pas évoqué les histoires d'espionnage via les DRM. Donc pour les plus anciens d'entre nous, on se souviendra en 2006 du rootkit de Sony qui, sur un de leurs... c'était un CD ou un DVD ?
CD.
Un CD permettait d'avoir un contrôle à distance de votre ordinateur.
Et le plus drôle, c'est que le logiciel dont était dérivé le rootkit, en fait, était dérivé d'un logiciel Vidéolan. Donc c'était en plus une violation de la propriété intellectuelle de Vidéolan.
Voilà, une violation du droit d'auteur de la Vidéolan. Bon, franchement, Marie, donc nous sommes toujours sur la partie DRM. Tu parlais tout à l'heure effectivement de l'exception pour copie privée, qui n'est en fait qu'une exception actuellement, ce n'est pas un droit. Tu parlais aussi de l'interopérabilité. Est-ce que tu pourrais nous faire juste un petit point sur ta thèse, et notamment parce que je crois que toi, tu milites pour un droit à l'interopérabilité, évidemment au niveau international et au niveau européen.
Oui, alors moi je me suis préoccupée en fait d'un acteur qu'on oublie tout le temps quand on parle de technique et quand on parle de droit d'auteur, c'est le consommateur tout simplement. Parce que on a la peur des geeks, on a la peur du peer-to-peer, mais le premier qui ne peut pas en fait utiliser ses contenus à cause de DRM, c'est le consommateur, c'est la petite personne lambda qui se retrouve à mettre son DVD, parce que il n'y reste que eux en fait qui achètent leur Blu-ray, leur DVD et qui se retrouvent à ne pas pouvoir les lire sur leur ordinateur, sur leur tablette, sur leur smartphone, sur tous les supports de leur choix. Et en fait, actuellement, on est le seul pays en Europe à avoir intégré cette notion d'interopérabilité, c'est-à-dire de ne pas empêcher deux systèmes de pouvoir échanger ensemble. C'est une super idée sur le papier, parce que vraiment, ça veut dire qu'on a compris qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Le problème, c'est que le régime juridique actuel qu'on a, c'est juste qu'on encourage en fait à l'interopérabilité, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune obligation et qui plus est, il y a plus des obstacles puisqu'on maintient le régime des mesures techniques de protection qui empêche précisément cette interopérabilité et on voit les discussions au niveau de la directive ECD qui ne donneront rien de ce côté-là. Moi, je milite en fait pour qu'on modifie les textes, pour obliger à l'interopérabilité. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire obliger à l'utilisation de formats ouverts pour que tout le monde puisse utiliser, pouvoir réutiliser ses documents comme il le souhaite, ses contenus numériques comme il le souhaite, et obliger à une information systématique sous peine de sanction, pour que tout le monde soit informé de ce qu'il a aujourd'hui sur son ordinateur et des obstacles qu'il peut y avoir à terme sur l'utilisation de ses contenus et de ses données.
Quand tu parles de formats ouverts, ce sont des formats dont les spécifications sont publiques, connues et dont l'implémentation est libre d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction, que ce soit liée au droit d'auteur ou au droit des brevets. Est-ce que vas-y, Marie.
Non, c'est bon, c'est exactement ça.
Ok, parce qu'il ne nous reste même pas 2 minutes pour cette partie droit d'auteur, parce qu'après il y a DRM, parce qu'après il y a pas mal d'annonces d'événements libristes. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, il y a une petite partie, en fait, c'est que en fait, les industries culturelles, elles se moquent un peu de nous, complètement du consommateur, parce qu'en fait, elles essayent de jouer des deux côtés. D'un côté, vous achetez en fait le droit à la lecture et le droit à l'œuvre, et donc finalement, c'est la licence sur le film, et normalement, vous devriez avoir la licence sur l'ensemble des supports, que ce soit un DVD, un MP4, quelque chose qui est chiffré, quelque chose qui est en streaming, et d'un autre côté, elles essayent de vous le vendre plusieurs fois. Donc en fait, quand ça les arrange, vous achetez une licence pour le contenu, et quand ça les arrange, vous avez le droit, vous achetez juste une licence pour ce format. Et donc, et justement, les DRM leur permettent d'avoir ça. Et normalement, c'est absolument pas possible de vendre à quelqu'un 2 fois la même chose.
Écoute, c'est une bonne conclusion. Alors, pas finale. Déjà, dans les annonces, donc le 18 septembre 2018, nos amis de la Fondation pour logiciels libres, à travers leur site Defective by Design, alors qui peut se traduire en français par Défectueux à dessin ou par conception, organise la journée internationale contre les DRM, avec un mot d'ordre Imaginez un monde sans DRM. Donc c'est le 18 septembre 2018, donc il y aura sans doute des événements organisés, ou en tout cas des ressources qui permettent de vivre dans un monde sans DRM. Je pense que l'émission de radio Libre à vous de l'April sera sans doute peut-être diffusée sur les airs ce jour-là, si c'est évidemment possible. Côté VLC, il y a VLC 4.0 qui arrivera quand il sera prêt avec de nouvelles fonctionnalités absolument géniales. Les personnes qui s'intéressent principalement au développement de VLC, j'annonce quand même les vidéos DevDays du 21 au 23 septembre 2018 à Paris. Jean-Baptiste fera une présentation justement des nouveautés dans VLC 4. Alors, ce sera en anglais si je ne me trompe pas.
Quasiment tout ce qu'on fait est en anglais.
Voilà.
Parce qu'en fait, on a beaucoup de français, beaucoup d'allemand, donc tout le monde parle mal anglais, donc c'est bien.
Enfin, il dit ça, mais Jean-Baptiste parle très, très, très bien anglais. En tout cas, donc, je te remercie, Jean-Baptiste, pour cette intervention qui a permis effectivement d'éclairer sur les DRM, sur VLC. Je remercie aussi Marie, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone. J'espère que la prochaine fois, tu pourras venir de Compiègne pour être en studio pour une deuxième émission sur les DRM. Merci, Marie.
Avec plaisir, ce sera.
Merci.